La méditation est de saint Jean Cassien. Jean Cassien était un contemporain, il a connu saint Patrick. Allez, Reims. Il a pris le bâton avec son frère et un jour, et puis il a marché sur toute la Méditerranée. Et il a été visiter tous les pères du désert qui étaient dans les Laures, un petit peu partout, en Égypte, en Orient. Syrie partout. Et puis voilà. Et puis il est revenu. Un des plus beaux livres qui existe. Il interroge, il écrit ce que tout ce que c'est géant, disons. Parce que c'était des géants. Ils étaient considérés comme des géants. Des géants de la vie spirituelle, des géants de la vie. Les solitaires des déserts. Et ils donnaient le secret de la vie chrétienne, de la vie du Christ. C'était des gens qui étaient partis en masse, par dizaines de milliers. Il n'y a plus de persécution alors. Alors, leur manière d'être, de donner leur vie, d'être martyr, de donner leur sang, c'était de partir dans le sable, et puis de vivre l'union transformante, quoi. La vie ascétique et mystique est née comme ça, tout de suite après la persécution. Voilà, entre 310 et 320, et puis et l'an 400, donc quand c'est grand, ils étaient connus, hein, dans tout le monde. Il faut avoir lu une fois dans sa vie, hein, le livre de Cassien. Quand il ramène tous les trésors, les secrets de la vie, du témoignage solitaire. C'est très 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 grande figure. Et donc à son retour, il a lui-même était ermite, mais enfin, il a été suscité, si on peut dire, oui, des lieux de solitude en France. Et en particulier un à Montmorin. Dans l'an 430, par là. Et moi, ça me touche beaucoup parce que mon premier ermitage était là, à quelques centaines de mètres de l'ermitage, dans lequel il s'était. Il avait vécu à Montmorin, dans les Hautes-Alpes. Alors, voyons ce qu'il dit ici. Faut renoncer à tout, hein. Ça, l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Et il y a l'amour, si tu veux être un disciple de l'amour, être un consacré. Je consacre toute ma vie à Jésus, l'Esprit Saint, pour qu'il n'y ait que l'amour en plénitude, la plénitude d'amour. Du coup, tu ne fais de mal à personne. Évidemment, si tu mens, tu fais du mal à celui à qui tu mens. Eh bien, les renoncements sont au nombre de trois. Et accomplir ces renoncements doit faire toute notre ardeur. Le premier est un renoncement corporel. C'est celui qui nous fait mépriser toutes les richesses et les biens de ce monde. Le deuxième renoncement c'est de renier notre vie passée, nos vices, nos passions de l'esprit et nos passions charnelles. Le troisième renoncement consiste à retirer notre esprit des choses présentes et visibles pour contempler uniquement les choses à venir et ne désirer plus que les réalités invisibles. Qu'il faille accomplir ces trois renoncements, tous les trois, c'est ce que le Seigneur a déjà commandé à Abraham quand il lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. » Quitte ton pays, c'est-à-dire renonce aux biens de ce monde et aux richesses d'ici-bas. Quitte ta parenté, c'est-à-dire renonce à ta propre vie, avec ses habitudes, ses habitudes d'autrefois, à tes vices aussi, à toutes choses qui nous sont si étroitement unies depuis notre naissance, qu'elles en ont contracté avec nous comme une sorte d'affinité, voire de parenté, de nature, et qu'elle semble en vérité comme de notre sang. Et enfin, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire bannis de tes regards tout souvenir du monde présent. À ces trois renoncements correspondent d'ailleurs exactement les trois livres de Salomon. Au premier renoncement conviennent les proverbes qui s'appliquent à retrancher les biens terrestres et les vices charnels. Au deuxième, c'est l'Ecclésiastique. Il est proclamé que tout est vanité de ce qui se fait sous le soleil. Et au troisième renoncement correspond le Cantique des Cantiques, dans lequel l'âme, dépassant tout le visible, s'unit déjà par la contemplation des célestes mystères, à la personne divine et au Verbe de Dieu. par tous ces grands solitaires, tous ces grands ermites, tous ces grands saints, tous ces grands moines. Dispersés dans tous les endroits, déserts de Syrie, d'Égypte et toutes les lors, ben, au bout de 50 ans, 60 ans de cette vie, ben, ils ont eu la visite de Cassien, les uns après les autres, et lui, il les suppliait. De dire un secret de la vie spirituelle, parce que. Et chacun donnait son secret sur le renoncement. C'est une vie assez ascétique, la vie dans le désert. C'est moi de mener une vie de pauvreté, enfin, d'ascèse, de pénitence. C'était des thaumaturges, enfin c'était vraiment des présences de Dieu sur la terre, quoi. C'était un mélange de Dieu et de l'homme, on peut dire. C'était les tout premiers moines du christianisme. Donc, Saint Cassien, ben, il a eu la chance de pouvoir être inspiré, d'aller voir, c'est presque pas chacun d'entre eux, mais, parce qu'il y en avait trop, mais les plus grands, les plus... Lorsque ces derniers avaient déjà, étaient déjà partis au désert depuis 50, 60. Ils avaient 90 ans. Marc l'ermite. Alors ça a donné les apophtèques, mais des pères du désert aussi. Ça c'est des livres qu'on va avoir se nourri de ces livres-là. Au moins une fois dans sa vie. Et ça a marqué, hein, ça a marqué l'Église de Jésus dans le monde occidental, dans le monde connu, disons, dans tout notre monde connu. Et c'est comme ça que il y a eu des consacrés. C'est comme ça que ça a commencé. La vie consacrée, être consacré à Dieu, être consacré dans le renoncement, oui, à soi-même. On se lançait perdument dans les bras de Dieu, quoi, en renonçant à tout ce qui est derrière nous, en courant dans le fond du désert. Et on attend tout de lui. Et on se livre à une vie virginale, à une vie pure, à une vie immaculée. On se livre complètement à une vie dépouillée aussi, quelque chose, c'est sûr. Mais à une vie surtout mystique, une vie d'union, une vie d'amour de Dieu. Vivre de Dieu seul, monos, moi ça veut dire ça, c'est monos seul, uniquement Dieu uniquement. Et tout ça ensuite, petit à petit, il y a eu des monastères, il y a eu des gens qui ont voulu ça, avec une petite proximité quand même les uns avec les autres, pour s'encourager, se conseiller. pour aller plus vite hein, dans la voie du renoncement, hein, de la volonté propre, hein, notamment, l'obéissance. Quoi. Et du coup, il y a eu ces trois renoncements qui sont concrétisés comme ça avec le. Avec le. Je me rappelle quand j'étais prosterné comme ça devant l'hôtel de Paray-le-Monial à la basilique. On était quatre ce jour-là. On disait, on chantait le chant. Voilà, on allait signer ensuite sur l'autel de la centrale, au milieu de la messe, en mêlant sa signature au sang du Christ. Et on chantait de « Reçois-moi, Seigneur !» C'est vrai, vous savez, vous êtes jeune, vous avez 20 ans. C'est extraordinaire de voir ça. De Dieu, c'est un. Reçois-moi, Seigneur, selon cette confiance inouïe et perdue, pour se plonger dans le cantique des cantiques, dans l'hymne des hymnes, dans le chant des noces, pour les encore 70 ans qui sont devant nous. Qu'il arrive. Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Alléluia. C'est vrai que c'est quand même. Incroyable cette intrépidité intérieure, ce visage lumineux de ces jeunes qui, des catholiques, des baptisés, quelques-uns, Dieu permet, enfin, il y en a quelques-uns qui sont reçus par Dieu dans la vie, dans une vie chrétienne, d'humilité, ils font le vœu d'humilité. C'est extraordinaire, ça n'empêche. L'esprit de pauvreté détache, c'est pas seulement le détachement de soi-même, de tout, de la famille, enfin de la terre, mais c'est plus que ça, l'humilité, bien sûr, hein. L'esprit de pauvreté. Hein. Donc ils font le vœu dedans, ils rentrent dans la clôture de l'esprit de pauvreté. Il rentre dans l'esprit de l'immaculé, de l'immaculation, de la fraîcheur de l'immaculé, de la pureté absolue. De la... la virginité, quoi. La vie contemplative. Il s'est libre. Ils n'ont pas de. Voilà, il renonce au père, à la mère, à la paternité, à la maternité, à la sponsorité, au moindre mouvement, même intérieur, en pensée par rapport à l'enfant, par rapport aux frères, par rapport aux sœurs, et par rapport à eux-mêmes. Il se livre à l'esprit de virginité. Et l'esprit de virginité. Et il se livre, il se consacre entièrement à la vérité vivante du mariage spirituel, enfin, l'obéissance. L'esprit d'obéissance, ils sont toujours au-devant. Ils se consacrent, ils promettent, ils se livrent. Vous êtes livré à quelqu'un vous prend. propre, vous amène à sa manière à lui. Là, vous êtes livré à l'esprit d'obéissance. C'est-à-dire à un esprit, à une vie spirituelle intérieure et extérieure. Au fond externe, au fond interne et au fond intermédiaire. Il se livre à une vie mystique, une spiritualité, où on va toujours, presque par anticipation, on anticipe par avance ce que l'autre veut. Ob irait, on court toujours au-delà de, dans le fond du cœur de Dieu, dans le fond, toujours plus loin. Et c'est toujours l'obéissance. C'est le contraire de l'arrêt. J'arrête de vivre sur la terre et je reste comme ça. Non, non. C'est d'une mobilité qui permet à l'Esprit Saint de nous demander tout le temps, d'aller au-devant, hop, et d'aller chercher l'amour plus grand qui se trouve dans les occasions, dans les instants de la vie. Pas seulement le supérieur, le père spirituel, mais Saint-Esprit, l'obéissance au Saint-Esprit. Jamais s'arrêter au niveau sponsal du cantique des cantiques sur un acquis. Aller toujours plus loin dans l'amour éternel, infini, sans limite, et toujours actuel de Dieu. Et on voit, vous savez, je me rappelle, on se prosternait comme ça. Et on chantait comme ça. Alors, reçois-moi, Seigneur, selon ta parole. Je vivrai. Et puis après, on. Une fois qu'on l'a chanté une fois, dans l'église, les gens sont un peu. Dans la basilique. Alors, il y a ceux qui se sont déjà consacrés, qui sont là autour et qui chantent avec. Une deuxième fois avec les quatre. Et ils chantent, reçois-moi Seigneur, selon ta parole, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Parce que toute cette vie, elle dépend que de Dieu. Si Dieu n'est pas à chaque instant, c'est pas la peine que tu te consacres. Tu renonces à tout, c'est derrière toi. Mais quand Dieu te demande, il donne de pouvoir, il donne la grâce, il la donne. Ne déçois pas mon attente. Alléluia. Et à ce moment-là, une troisième fois, ce chant est chanté, mais alors, par la foule. Ça fait vibrer tout là. C'est extraordinaire de passer de un à tous. La confiance est perdue. Nous sommes tous consacrés à Dieu. C'est quand même. Il faut quand même ouvrir les yeux. Il faut quand même ouvrir les yeux pendant des siècles et des siècles. Des millions et des millions. De jeunes filles, de jeunes gens, dans leur intrépidité, ils ressentent. Sont rentrés dans cette vie consacrée. des millions et des millions et des millions. À chaque fois, c'est un total miracle. Mais total. C'est impossible. C'est impossible. Quand tu vois, par exemple, une jeune fille dans sa vie comme ça, tu as l'impression de voir la Sainte Vierge. Elle a 18 ans, elle donne sa vie, elle se consacre. Elle a 20 ans, elle a 25 ans. Quand tu vois un jeune, là, mon Dieu, mais comment ça se fait qu'il y ait des... Et il donne sa vie. Et quand il va avoir 90 ans, il aura été fidèle. Et l'Europe chrétienne a été tissée humainement avec ses élans irrésistibles de Dieu dans le cantique des cantiques, d'une donation, d'une fidélité, enfin la vie de perfection, quoi. Ces monastères, tous ces couvents, une petite vallée là-bas, là, derrière les villages d'Auvergne, pas loin d'ici, petite vallée avec près d'Arlan, entre Arlan et Auvergne, c'est extraordinaire ça. Il n'y a pas un seul village où il n'y avait pas au moins deux ou trois couvents. Et pendant des siècles, tu vas dans un jardin immense et puis que tu vois qu'il est rempli des fleurs les plus rares. Et des arbres les plus odoriférants, enfin je sais pas. Ça change par rapport aux champs friches, remplis de serpents. Notre corps, il est fait pour le renoncement. Notre cœur, il est fait pour le renoncement. Notre esprit, il est fait pour le renoncement. Il fait pour, pas pour le renoncement, il fait pour Dieu. Et que l'amour de Dieu puisse se consacrer à sa créature. Et l'épouser à égalité. À égalité d'affinité, de réciprocité, d'amour. C'est curieux de dire ça, hein. Dire par exemple que le corps, il est fait pour la virginité. Ça paraît inouï de dire ça. Le cœur, il est aussi fait pour la pauvreté. Il est fait pour il est fait pour aspirer toutes les richesses de Dieu au fond de lui, dans la surabondance de la communication éternelle. Sinon, il n'y a pas le cœur. Et enfin, l'esprit, il est fait pour la sponsorité, pour la puissance. Il est fait pour le revêtement, le mariage spirituel. Notre esprit, notre intelligence, notre memoria dei et notre capacité d'aimer est faite pour cet ardema. La communion des saints qui a exhalé le le Saint des Saints, l'éternité incréée, paternelle de Dieu. Et bien sûr, si je renonce à la paternité, c'est pour le Père. C'est pour qu'il y ait cette exaltation. Et la rencontre au fond des trois, ben elle se fait bien. C'est ça qui va être la manifestation visible de l'unité indivisible de la Jérusalem nouvelle dans les trois derniers sauts de l'Apocalypse. Mais dans le premier saut, dans le premier de ces trois sauts, eh ben, quand il s'ouvre, on a le deuxième et le troisième saut par anticipation, par prévenance, par miséricorde. Mais on le touche, on l'acquiert, on s'y pénètre, on s'y consacre. Notre corps charnel est déçu, il est bien sûr fait pour le corps spirituel, venu d'en haut, enfin. Mais c'est évident. On peut rendre grâce à Dieu, vous savez, quand... Mais le monde a une répulsion, une détestation, une espèce de réaction compulsive, le vomissement dès qu'il voit un consacré catholique marcher dans une rue. C'est une espèce de réaction compulsive de rejet. C'est dégoût. C'est pas de la haine. C'est une réaction compulsive, méchamique, parce que dans l'esprit du monde, le corps, l'âme et l'esprit humain sont inversés. Tout ce qui se pense faire leur béatitude, c'est diabolique. Et là, quand tu vois Saint Jean se consacrer entièrement en Marie, en Jésus, et dans l'apocalypse de la fin à Dieu, ben, lorsqu'il se consacre, lorsqu'il est consacré, lorsqu'il vit cette consécration, on voit bien. Qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi réconfortant pour la nature humaine et pour la nature de l'attente de Dieu vis-à-vis des hommes sur la terre. C'est la lumière des cœurs droits qui se lève au milieu des ténèbres. Et bien, dans la Jérusalem qui va s'ouvrir sous nos yeux, la lumière des cœurs droits va se lever au milieu des ténèbres. Visiblement pour eux, invisiblement pour le monde, sans être vu. Pas besoin de porter un habit. Ou un voile, ou un signe. Non. Le feu, mais un feu réel, vous savez, embraser le feu, s'incruster à l'intérieur de notre chair, de notre cœur. De notre esprit, à l'intérieur de chaque moment de notre puissance spirituelle. Feu qui va de l'intérieur le marquer, le consacrer. C'est un feu qu'elle va faire son habit intérieur, qu'elle va faire son majarisation, sa caresse, ça veut dire divine surnaturelle, parfaitement pure et pénétrante, sa caresse d'amour. Il n'y aura plus besoin de congrégation. Oui. Il n'y aura plus de congrégation. Mais le monde nouveau est là. Il est devant nous et il faut qu'on puisse déjà aujourd'hui être entier. Consacré au monde nouveau, et puis chanter le chant et l'inscrire dans l'autel de la Sainte Famille, de l'Immaculée Conception déployée de manière spontanée dans la Sainte Famille glorieuse, produisant, chantant précisément dans le corps spirituel la réception de cette grâce dans laquelle nous sommes reçus. On pourra dire, ne déçois pas mon attente. Alléluia. En y emportant dans l'enthousiasme, parce que l'enthousiasme, c'est Dieu qui se place de manière irrésistible, inexorable, invincible, bon, souveraine et inconditionnelle à l'intérieur. Cet enthousiasme emporte la nature humaine tout entière dans une nouvelle capacité, puissance d'amour. Une nouvelle surabondance. Qui emporte les limites du monde angélique et qui vit déjà cette lumière de gloire. Avec le désir de la conjoindre dans l'unité de la Jérusalem dernière à la gloire de Dieu. Oui. Non, je signale quand même, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, moi, Jésus, Dieu vivant venu, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie. Ça fait sept. Il ne peut pas être mon disciple. Donc celui d'entre vous qui ne renonce pas à ces sept, c'est qu'il ne renonce pas à ce qui lui appartient. Eh bien, il ne peut pas être mon disciple. Ce serait beau de développer ce que c'est que le renoncement à son papa, à son père, à la paternité de son père. Parce que je veux dire, Jésus est mon Père. Quand je me consacre à Jésus, à moi, à me préférer moi, je suis le véritable Papa. Moi, Jésus, Dieu vivant, venu dans la chair, sur la croix, je suis votre Papa. Quand Dieu me ressuscite d'entre les morts, je suis votre Papa. Je suis votre engendrement. et sa mère. Je suis votre maman. Je suis votre maman. Mon union hypostatique, c'est votre maman qui vous conçoit. Mon union hypostatique, c'est votre maman qui vous nourrit. C'est votre maman qui vous protège. C'est votre maman qui vous donne une naissance dans la vie éternelle. C'est votre maman qui vous éduque. C'est votre maman qui vous attend. Mon union hypostatique vous apprend un nouveau langage. C'est votre maman. Je suis votre maman. Ceux qui ne rentrent pas à sa moitié sponsale, son épouse, d'avoir un amour. Je suis. Moi, Jésus. Je suis votre épouse. Je suis votre moitié sponsale. Je suis les. Je suis. L'épouse. Et je suis l'époux aussi, ça dépend rien, bon, bien sûr. Ça, c'est la virginité, ça. La virginité surnaturelle, mystique, quasi incarnée, on trouve Jésus. Mais Jésus. C'est qu'il ne renonce pas à ses enfants, mais je suis celui que vous engendrez lorsque vous formez la vie divine dans tous les enfants. Je suis vos enfants, tous vos enfants, c'est moi. Vous êtes des engendrants. Et vous formez la vie divine dans tous les enfants. Et ces enfants engendrés, c'est moi. Et si vous renoncez pas à votre frère, à vos frères, vous avez un frère jumeau, par exemple, je suppose. Oui. Des frères, vous rendez compte, nous avons le même père, nous sommes du même sang, nous sommes de la même famille. Le frère, c'est extraordinaire d'avoir un frère. C'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir un frère. C'est autre chose qu'un ami, parce qu'en plus de l'ami, c'est quelqu'un qui a le même sang que vous. Il y a une complémentarité dans le frère et le frère, entre deux frères, il y a une complémentarité, il y a une proximité, une intimité, une compréhension. Je ne sais pas, mais dans la fraternité, le fait d'avoir un frère, c'est plus profond, quelque part, que l'amitié, parce que quand votre frère, il a le même sang que vous, mais aussi le même sang du Christ que vous, hein, le même gras, la même foi que vous, hein, les mêmes dons que Dieu donne dans une famille, par exemple, chrétienne. Vous avez la même sainteté que votre frère. Votre frère, c'est... Il y a une... Dans la fraternité, il y a... Avoir un frère, c'est... On est à la fois distinct, mais inséparable. Eh bien, il faut renoncer à son frère, parce que c'est Jésus. Oui, Jésus dit, je suis ton frère. Je suis ta sœur. d'ailleurs beaucoup à dire. Et celui qui ne renonce pas aussi septièmement à sa propre vie. Mais je suis ta propre vie. C'est plus toi qui vis, c'est moi qui suis ta propre vie. Si tu ne vis pas ça intégralement, ouvertement, lumineusement au milieu des ténèbres, eh bien tu ne peux pas être mon disciple, c'est évident. C'est évident. Et c'est là qu'on voit que Jésus, eh bien, il s'est consacré lui-même entièrement à chacun d'entre ceux qui sont ses disciples. Consacre-les, Père, consacre-les. Je me suis moi-même consacré pour eux. Consacre-les dans l'Esprit Saint. Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Alléluia. Reçois-moi. Seigneur, selon ta parole, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Alléluia. Reçois-moi, Seigneur, selon ta parole, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Alléluia.